Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h05, le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi. On ne vous lâche pas pendant les fêtes. On est là tous les week-ends de l'année. En compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Pascal Duprat, David Douillet, Olivier Giraud à 11h30. Ce sera l'heure du fameux débat caché, le rendez-vous qui fait flipper les GG. Et puis à 11h45, les GG contre-attaquent. Vous le savez, chaque grande gueule est venue avec une idée de débat. Alors un petit peu orienté, hein, on avait choisi le thème aujourd'hui. Chaque grande gueule doit nous proposer un débat, un retour sur l'événement sportif de 2023. Injustement, selon eux, selon elles, passé sous silence. C'est à vous, les auditeurs, de voter. Les thèmes sont déjà en ligne sur le compte X, anciennement Twitter, de l'émission. Vous votez pour celui que vous souhaitez écouter à l'antenne. Du coup, les GG, c'est à vous de vendre un petit peu votre sauce, votre produit. Vous faites comme au marché, là. Venez rameuter les clients autour de votre stand. Qu'est-ce que vous avez à nous vendre aujourd'hui, Olivier Giraud?
Eh ben, du sport féminin, mais intéressant parce que pour deux raisons, à la fois pour le Tour de France, évidemment, je vais parler de cyclisme, de la victoire cette année de la championne de France qui est un peu méconnue, qui s'appelle Victoire Berthaud, de 23 ans, mais qui est aussi forte sur piste que sur route. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et cette championne de France qui est très forte aussi à l'Omnium, qui a plusieurs médailles de bronze sur piste par équipe également, peut être une des grandes championnes et de mettre en avant la championne de France qu'on verra aussi sur le Tour de France féminin, ça peut être une année pour elle. Et que voilà, ce titre de France n'est pas assez de championne de France n'est pas assez reconnu.
Voilà, écoutez les auditeurs, si ça vous chauffe, si
ça vous intéresse pas, ne votez pas pour lui.
Vous allez. Ah là là, qu'elle est mauvaise, Marie Martineau.
Elle veut gagner.
Allez, prends la main. Qu'est-ce que tu as à vendre à nos auditeurs
Alors, je veux aussi parler d'une nénette qui s'appelle Joséphine Panier et qui est en tête actuellement du classement général des Coupes du Monde de saut à ski. Voilà, c'est ces gens qui volent comme ça avec des grands skis en V là et qui font des sauts si incroyables. Et plus généralement, si vous me faites l'honneur de voter pour cette fille là, et j'aimerais vous raconter un peu plus sur toutes les filles qui cette année ont envoyé du gros et mettent en jeu leur intégrité physique pour nous faire kiffer, pour se faire kiffer, que ce soit en ski, que ce soit en snowboard, que ce soit en skate. Il y a un niveau international des nanas qui est dinguissime sur les sports alternatifs et je trouve que de manière générale, on n'en parle vraiment pas assez et on ne donne pas envie aux gens de les suivre.
Ouais. T'as mis un bonus si on vote pour toi, quoi.
Ouais.
Ok, d'accord.
Les bons commerçants, ils savent attirer le chaland. Voilà, vous allez voter pour Marie si elle vous a convaincu. Pascal.
Eh bien, moi, je voudrais qu'on parle du dernier exploit en date d'un sportif français. C'est aussi des sports d'hiver. C'est la victoire de Cyprien Sarrazin à Bormio il y a de ça 2 ou 3 jours. Mm-hmm. Et surtout qu'on parle de l'équipe de France de ski masculine, parce que j'ai l'impression que nous avons des champions emmenés par Pintu, bien sûr, mais des champions qui vont encore défrayer la chronique et gagner des manches de Coupe du Monde en ski alpin cette année.
Ouais, effectivement, l'équipe de France de ski alpin, effectivement, dont on avait instruit un petit peu la saison dernière et la préparation ici même dans cette émission et qui déjoue un petit peu les pronostics, en tout cas des plus pessimistes. David Douillet.
Bon, moi c'est moins sexy, mais ça peut l'être vraiment.
Oh,
voilà, vraiment. vous savez,
on fait envie.
Excuse-moi. Il y a eu quelques mois, il y a eu des audiences parlementaires. Le 19 décembre, un rapport de la commission d'enquête parlementaire qui était consacré au dysfonctionnement des fédérations a été adopté par les députés qui en étaient membres. Tout ça pour dire que le sport a été auditionné pendant des mois, alors des présidents de fédé, des anciens ministres, des sportifs, etc., etc. Ça a fait un peu les choux gras de pas mal de presse. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui va en ressortir? Le rapport sera public le 16 janvier. Est-ce que ça sera pchit ou beaucoup de scandales à venir? Est-ce que les parlementaires se sont payés une grosse page de pub ou pas? Moi, je me dis quand même un petit truc. Hein, quand on parle de dysfonctionnement dans un domaine, et quand les parlementaires, donc les politiques, enquêtent, on pourrait se dire que ça pourrait peut-être se retourner. Bon, pourquoi pas.
Allez, oui, bah écoute, ça tu développeras tout à l'heure. Si ton débat est choisi, vous allez voter sur le compte X anciennement Twitter.
Hein.
je n'en sais rien, moi je ne vote pas. Mais je serai là pour donner les résultats. Réponse à 11h45. Pour l'instant, dans les grandes gueules, on passe la seconde. Et pour citer les mythiques Pink Floyd, Leave the Kids Alone.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comment vivre avec la folie?
Les parents deviennent fous dans le football amateur. À Montrouge, donc en région parisienne, les entraînements ont été suspendus cette semaine suite à l'agression d'un éducateur par un parent.
Heureusement, il y a Kylian.
Non, mais c'est ma femme.
Les parents fous qui s'imaginent qu'ils ont le prochain Kylian Mbappé ou la prochaine Steffi Graf sur des cours de tennis, c'est juste pas possible.
La folie désoriente, c'est vrai que... Elle touche, elle fait peur, beaucoup plus que d'autres maladies.
On n'a pas à subir l'entourage des familles, donc il est important pour nous de dire stop à ça.
Mais t'es pas bien.
Les parents devraient comprendre que la première chose qu'ils ont à faire, c'est de laisser travailler les éducateurs.
Mbappé !
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Des comportements agressifs, violents de la part de parents envers les éducateurs des petites catégories qui sont de plus en plus dénoncées par les clubs amateurs français qui tentent eux de se mobiliser contre ce phénomène. Les parents veulent faire de leurs enfants des stars du foot à l'image évidemment de Kylian Mbappé, ces projets Mbappé qui sont dans la tête de tous les parents pour leur chérubin. Une dérive qui a conduit mon cher Nicolas Paolo Orsi, bonjour, le monde professionnel et des institutions à s'emparer du sujet.
Bien évidemment, parce que on l'a un petit peu entendu dans la production que vous avez écouté. Ces agressions, elles sont répétées. Ça a commencé à Lina Montlhéry le 2 décembre dernier, où il y a un jeune éducateur de 18 ans de la catégorie U9 qui s'est fait frapper par un papa qui estimait que son fils ne jouait pas assez. On l'a entendu dans l'extrait à Montrouge également. Alors là, c'était sur une catégorie un petit peu plus élite. C'était des moins de 17 qui jouent à un bon niveau, où un papa était mécontent de voir son fils qui n'était pas sélectionné sur la feuille de match, et ça a conduit les éducateurs à sortir du bois. Ils étaient une quarantaine à se réunir vendredi 22 décembre pour essayer de dénoncer ça. Écoutez Guillaume Rigello, c'est le responsable des jeunes à Montrouge.
Il y a eu une énième agression verbale et physique sur un de nos éducateurs, une nouvelle fois. Et malheureusement, c'est cette fois-ci la fois de trop. On s'est trop longtemps tué par rapport à ces agressions qui existent depuis maintenant trop longtemps, depuis plusieurs saisons. On ne se sent plus en sécurité dans l'encadrement de nos jeunes, et ça, c'est une problématique.
Alors les clubs essayent de prendre des mesures, hein. Il y a des entraînements à huis clos désormais, où on prive les parents d'assister aux entraînements. Pareil pour certains matchs, mais c'est très difficile d'agir. Et ça a conduit certains professionnels à essayer de délivrer un message, à sensibiliser ses parents. C'est le cas de Samuel Gigot, le capitaine de l'OM.
Moi, j'ai eu la chance que mon papa, il est toujours resté dans son coin, donc tant mieux pour moi. Le foot, surtout à cet âge-là, ça doit rester un plaisir pour les enfants. Voilà, ils doivent prendre du plaisir, s'amuser sur le terrain, c'est ça le plus important. Faut pas trop leur monter la tête, à leur faire croire que ça sera les futurs Mbappé. Je pense qu'il y en a pas beaucoup dans le monde. J'espère que voilà, les parents prendront conscience, parce que c'est aussi à eux de gérer ça.
Il y a des comportements totalement déviants qui font faire toutes les folies à ses parents. Écoutez, Jennifer Mendelevich, elle est agent de joueur, elle a beaucoup de joueurs très connus, Jennifer Mendelevich, et elle assiste à plein de matchs chez les jeunes avec des comportements totalement fous.
Ils sont complètement fous. Ils sont en concurrence avec les autres parents. Faut voir ce qu'on entend dans des matchs de jeunes. Arrêtez de mettre surtout de la pression à votre fils, parce que à un moment, ça va se retourner contre vous et on va créer des enfants qui seront mal dans leur peau, qui auront peut-être des déceptions parce qu'ils n'auront pas percé, qui penseront qu'ils ont déçu leur famille.
Alors il y a quand même quelques chiffres, hein. En 2021, en France, on recense seulement 1361 joueurs professionnels. En gros, vu qu'il y a plus de 2 millions de licenciés à la Fédération Française de Football, votre enfant, il a 0,055% de chance de passer pro. C'est infime. Et tout le monde parle du projet Mbappé, parce que Mbappé, c'est l'exemple type du jeune joueur qui a été amené à réussir au très très haut niveau, bien encadré par ses parents. Mais Mbappé, sa maman était handballeuse professionnelle, son papa connaissait très bien le milieu du football, et ils ont su s'encadrer parfaitement pour gérer leur fils qui était une superstar, un crack déjà à 11-12 ans. Donc forcément, c'est un vrai problème pour les institutions. Et sauf que comme les parents ne sont pas licenciés, c'est très difficile d'agir sur ces comportements déviants. Eric Borghini est membre du comité exécutif de la Fédé et il est aussi président de la Ligue Méditerranée.
Nous invitons les clubs, les éducateurs concernés, les joueurs concernés à porter plainte et la fédération sera partie civile à leur côté.
Voilà, essayer de porter plainte, de dénoncer ces comportements-là qui sont de plus en plus nombreux et qui inquiètent hein, les éducateurs qui veulent éviter un drame tout simplement.
Merci beaucoup Nicolas Paolo. Si projet Mbappé ou quand l'enjeu d'un contrat rend fou les parents, cette enquête, ce reportage excellent à retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr. Nicolas, si tu le peux et le souhaites, tu peux rester avec nous évidemment pour intervenir dans ce qui va être un débat un petit peu moins clivant qu'à l'habitude, parce que je crois qu'il y a consensus sur le fait que c'est quand même un phénomène détestable autour des terrains qui, on l'a vu, peut altérer un petit peu les capacités des enfants eux-mêmes et puis surtout qui entravent le travail des éducateurs. Du coup, je vais pas vous demander de prendre position, je vais vous demander quelles solutions vous, les grandes gueules, vous auriez à apporter. Je me tourne vers toi, Olivier, parce que tu travailles évidemment sur ces questions, le sport à l'école, la façon d'enseigner le sport. Est-ce que c'est un phénomène que vous, parmi les institutions, vous avez donc identifié, sur lequel vous travaillez, et quelles solutions concrètes on peut apporter à ces parents qui rêvent de gloire pour leur chérubin?
Ta dernière phrase, c'est pour moi, c'est la plus importante. Ces parents qui rêvent de gloire pour leur chérubin. Et en fait, la clé, elle est là. Il est là, le vrai changement. C'est pas ces enfants qui veulent ressembler à Mbappé. C'est la vision du sport professionnel qui a changé dans l'univers des parents. Se dire qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans, quand tes parents ils te voyaient partir au sport, ils te privaient de sport, limite, pour que tu travailles mieux à l'école. Aujourd'hui, il y a c'est un phénomène social et d'ascension sociale tellement fort, même avec le risque infinitésimal que leur enfant puisse devenir un champion, ils y croient tous. Et tu parlais de solutions, il y a 2 ans, des problèmes d'incivilité, il n'y en a pas qu'en France, il y en avait énormément aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, ils ont trouvé quelque chose d'hyper simple, mais d'assez hallucinant, qui m'avait fait un peu flipper à l'époque, c'est que autour des terrains, il y a un corridor, ils ont remis une deuxième barrière à 20 mètres des lignes des terrains pour laisser les parents à l'extérieur. Parce que le plus important, à la rigueur, c'est que l'enfant soit loin du parent. Parce que la vraie catastrophe, c'est ce parent qui met une pression à un enfant qui, à la base, lui, il a envie d'aller jouer avec ses potes. Et l'idée du parent, c'est d'aller écraser tout le monde, que son fils y joue, que son fils soit le plus beau. Et que, en fait, la chose première du sport et du sport collectif, c'était à la base que les enfants se rencontrent et s'amusent ensemble et découvrent un organisme, le foot par exemple, qui t'apprend des règles. Et en fait, ces règles qui sont apprises dans le sport, qui sont des règles de société, aujourd'hui les parents les détruisent en même temps. Donc il y a ce double discours qui fait que ces gamins-là, déjà ils feront plus du sport par plaisir.
Ouais, ils sont perdus.
Et donc on a perdu aussi les valeurs du sport, tout simplement à travers les parents.
Pascal, toi qui as été aussi un formateur avant de t'occuper de joueurs professionnels, est-ce que c'est un phénomène que tu as eu l'occasion de constater? Est-ce que tu as vu peut-être des gamins, qui dégoûtaient un petit peu par l'attitude de leur entourage? Est-ce que tu as vu des parents dépasser les bornes?
Honteux des attitudes des parents. Ouais. Moi, je te parle de ça il y a déjà 30 ans. Mmh. Donc j'ai participé à l'avènement d'un club amateur qui est devenu professionnel, qui s'appelait les Vianton Gaillard. Quand notre club a commencé à gravir les échelons, bien sûr, il était important et de mode de signer dans ce club-là pour espérer obtenir le Graal, à savoir être footballeur professionnel. Ce qu'Olivier a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, les comportements sont modifiés. Avant, on allait au sport parce qu'on voulait faire du sport, pour partager avec des copains. On allait notamment donc au football, c'est de ce sport-là qu'on parle. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe dans vos sports respectifs, parce que nous, au foot, c'est catastrophique. Donc, à cette époque, il y a 20 ans encore, les gamins, ils venaient pour jouer au foot. Et les parents, ils étaient dans l'idée que leurs gamins fassent du sport en plus de leurs études pour qu'ils soient bien dans leur peau, bien dans leur corps. Aujourd'hui, on les met c'est presque les parents qui mettent les gamins au football. on ne laisse pas aux gamins choisir son sport. Tu vas au foot parce que ça peut être un avènement et une promotion sociale incroyable pour la famille. Donc c'est là où il y a absolument danger. Et tu parlais des terrains enceints, grillagés. Il y a 25 ans de ça, tous les terrains de foot à 7, je les avais fait grillagés pour que les parents soient à l'extérieur. Tant on entendait de conneries, et surtout, tu pouvais pas, les gamins, foot à 5, ils pouvaient pas jouer. Les parents étaient sur le terrain.
Ouais. Ce qui est fou, Pascal, Nicolas, pour rebondir sur ce que tu dis très rapidement, mais Jennifer Mendelevitch, l'agente de joueurs qu'on a interviewé, elle nous dit qu'il y a quelques semaines, elle a été démarchée par des papas pour leur enfant de 5 ans. Des enfants de 5 ans qu'on a limite déscolarisés, on donne des séances supplémentaires à faire, des entraînements physiques, il y a des ostéos, bref, il y a carrément des cellules familiales qui s'organisent autour de ça. Ça devient Non, mais c'est dingue ce qui se passe.
Ouais.
Désastreux pour les enfants.
Ouais, alors c'est ça. Tu as dit tout à l'heure, il y a 0,055% de chances de passer pro. Alors j'ai envie de dire, parce que tu as parlé de solutions. Moi j'ai envie de dire quand même aux enfants, s'il y en a qui écoutent, que même si vous avez 0,05% de chances d'y arriver, il faut y croire. Si c'est votre rêve à vous, il faut y croire, il faut s'accrocher. Moi j'avais 0,5% de chances d'être médaille olympique. Eh bien c'était mon rêve, mais c'était mon rêve à moi. C'était pas le rêve de mon papa, c'était pas le rêve de ma maman, bien au contraire. Donc ça c'est pour les enfants. Et après pour les parents, s'il vous plaît, prenez la mesure de l'impact et de la responsabilité qu'on a sur nos enfants, quoi. Et le seul but qu'on doit chercher pour eux, c'est à ce qu'ils soient heureux, c'est à ce qu'ils kiffent leur vie, c'est pas à ce qu'ils deviennent riches ou médiatisés. Enfin, ça me dépasse vraiment, mais pour le coup, on est très très nombreux à avoir des enfants, et on est aussi heureusement, bien heureusement, très très nombreux à n'avoir pour eux que ce rêve-là, qu'ils deviennent heureux. Mais c'est bon pour le sport, c'est bon pour les études, c'est bon pour tout, en fait.
Marie, pourquoi les gens jouent au loto alors qu'ils ont une chance infinitésimale de gagner?
C'est un peu différent parce qu'ils jouent pour eux, tu vois.
Tu sais que c'est la maman de Ronaldo Nazario, le Brésilien, qui disait j'achetais un ticket de loto chaque semaine et j'avais pas compris que le ticket de loto, c'est lui qui cassait les vases en jonglant dans mon salon. Il était dans le salon. On peut pas en vouloir à certains parents, selon les milieux, effectivement, de voir le ticket de loto chez leurs enfants. Je te sentais un petit peu fataliste dans ton mes maris, David.
Je comprends bien ce que Marie a voulu dire, elle a raison, mais c'est très utopiste. Moi, je pars du principe qu'il faut parler faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. On a un problème, c'est les gens qui sont sur les abords du terrain et qui transposent ce qu'ils auraient aimé vivre à leurs enfants ou qu'ils considèrent que c'est la future pépite qui va leur faire gagner beaucoup d'argent, malheureusement. Il faut être intransigeant. Ils sont aveuglés par l'appât du gain, aveuglés peut-être pour certains un amour surdimensionné, mais qu'ils traduisent très très mal. Donc intransigeant. Moi, je partirais du principe d'être intransigeant vis-à-vis d'eux, parce que ils ont perdu la raison, ces gens. Donc quand on a perdu la raison, c'est difficile de raisonner les gens. Et donc là, il y a un vrai boulot à faire de ceux qui encadrent le monde du sport, des bénévoles, des profs. Encore une fois, ce boulot est à la charge des fédérations ou pour être sur le bord du terrain, devrait devenir un privilège. C'est-à-dire que le mec qui déborde, qui dit une parole plus haute que l'autre, ou qui hausse le ton, dehors.
Et oui, mais alors David, moi je vais me faire l'avocat des associations. C'est déjà parfois un miracle qu'il y ait déjà des bénévoles pour encadrer les gamins.
Le vire. Non mais comment on n'en sortira jamais.
Et face
on
à une meute de parents, sinon.
Je vais te dire un truc.
Moi en débutant, alors je fais juste cette parenthèse. En débutant, j'ai vu des parents de mes copains qui se battaient sur le bord du terrain parce qu'ils voulaient que leur fils soit titulaire le week-end. C'est juste des matchs avec des clous en caoutchouc.
Ces parents-là, tu les prends pas, tu les laisses pas sur le bord du terrain. Et c'est dès le départ. Moi, j'ai donné des cours de judo. Les parents, tu les captes en 20 secondes quand ils viennent inscrire leur gamin. Tu sais à qui t'as affaire. Et qui plus est, lorsque t'as le gamin sur un tatami ou sur un terrain de foot, tu sais comment sont les parents du gamin. T'as même pas besoin de les voir. Tu sais si ce sont des parents qui sont stricts, des ventres mous, ou etc. etc. Et en quelques séances, tu sais exactement comment vit le gamin chez lui. Ouais. Exactement. Sinon, voilà, vraiment, mais c'est
je pense que
c'est
ça fait poser une responsabilité sur des gens qui donnent déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À l'image des professeurs des écoles ou des collèges, face à des gens très impressionnants, parfois, dont la colère.
C'est-à-dire que tu rétablis le cadre de qualité qui te permet de travailler ensuite sur les gamins et avec les les gamins. Et si un parent transgresse la règle, c'est dehors. Et
ça devient. En fait, c'est pas le parent qui va mettre dehors, David.
Ouais, c'est le gars. C'est ça, c'est l'enfant qui va être
impacté. Je te prends cet exemple-là. Donc, je parle toujours de ce globe que, pour lequel j'ai bien bossé. Nous avions à un moment donné 1200 licenciés chez les jeunes. 50 équipes. Ok, des éducateurs, pour la plupart bénévoles. D'ailleurs, j'aimerais tous leur rendre hommage dans le sport. S'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas d'éducateurs, il n'y aurait pas de monde professionnel. Hein, qu'on soit tous bien d'accord. Mais comment tu fais pour gérer les mains courantes quand tu as des fous, des abrutis, des monstres? Tu fais comment? Tu peux pas le faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, t'impactes le gamin. Quand il y a les parents qui déconnent, et ben tu vires le gamin malheureusement. En fait, c'est le gamin qui empathie. Mais tu peux pas faire autrement.
Mais tu donnes pas accès. Tu donnes pas accès au stade. C'est quand même pas compliqué.
Mais comment fais-tu pour ne pas donner accès à un stade,
David? Olivier Giraud.
Tu dis voilà, la séance démarre. Moi, c'est ce que je faisais. C'est plus facile sur un tapis de judo.
Oui,
c'est ce que je fais. Je fermais les portes. Les parents dehors. Vous venez la chercher à telle heure. Dans une heure et demie, c'est terminé.
Tu fais ça, c'est un tatami, c'est fermé, un stade de foot,
un terrain.
Et tu fais 120 kilos.
Il faut s'organiser pour ça, sinon tu auras toujours le problème.
Et les amis, on a juste oublié quelque chose. On demande aux sportifs d'être exemplaires depuis très très longtemps. Et surtout les sportifs de haut niveau, parce qu'en fait, ils sont une vitrine et les jeunes sont des éponges. Mais il se passe le même phénomène depuis quelques années avec les parents. Et la dernière Coupe du Monde, l'avant-dernière Coupe du Monde, on a vu les embrouilles dans les tribunes entre parents de sportifs, Rabiot, Pogba. Le bon exemple, il est donné là. Ça veut dire qu'on a quelque chose de nouveau. Il y avait beaucoup d'agents avant. Et quelque chose de nouveau est apparu, c'est la gestion personnelle à la Venus Williams. C'est très, très à l'américaine à la base. Le projet familial, comme on appelle ça. Et donc maintenant, ce qui se passe au haut niveau, commence en bas niveau. Ils se font tous ce rêve de c'est le projet familial et ça part des parents. Et ça va être difficile à contrer aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est trop tard, on a laissé les choses glisser et qu'en fait, déjà, il y a des parents, c'est un projet familial, ce n'est plus du sport pour s'amuser. C'est que je mets mon gamin au sport, c'est pour qu'il réussisse et il n'y a qu'un seul objectif, c'est qu'il réussisse. Il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire tous ces rêves ou de se dire le parent reste à l'extérieur, c'est terminé. Le parent, il arrive dans l'émotion, dans un projet. Et son projet, il est même au-delà du projet de son propre enfant. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir déceler tôt, que les éducateurs doivent être capables de déceler tôt pour savoir quel est le projet et surtout rencontrer les parents.
C'est passionnant et évidemment, on aimerait avoir plus de temps pour en parler. Je suis obligé de vous couper pour donner la parole à Vincent, qui a eu beaucoup de patience, qui a fait le 32-16. Bonjour Vincent.
Bonjour Gigi, bonjour à toutes.
Salut Vincent. Un témoignage à apporter à ce que tu viens d'entendre.
Ouais, j'ai fait pas mal de rugby et j'ai fait une année d'éducateur. Allez, je vais être honnête avec vous, j'ai arrêté parce que j'ai pas eu la patience. J'en pouvais plus des parents. Ouais. Pas que des parents, que des gamins, mais les parents également qui venaient voir leurs gamins autour des tournois et d'autres équipes. C'est le futur, à l'époque, c'était le futur Dupont, c'était le futur, il a commencé à percer. Donc, moi, j'étais sur la région de Clermont, c'est le futur Para, c'est le futur Lopez, il y avait encore Penaud, c'est le futur Penaud. Les parents, actuellement, c'est une gangrène dans le cerveau des enfants. Je le dis, c'est une gangrène. Ouais. Moi, je l'ai fait du sport pendant des années. J'ai fait du judo, ce que David disait, nous, notre entraîneur faisait également. J'ai fait du rugby derrière, mais jamais. Moi, je remercie mon père, jamais il m'a mis ce projet en tête, ouais. Et jamais des parents de mes collègues nous ont mis ce projet en tête d'être sportif de haut niveau. Quand, pour moi, je fais du sport, quand j'étais gamin, c'était pour m'éclater avec mes potes, c'était pas pour, ouais, je vais signer un tel club ou je vais faire ça plus tard. Non, je m'en branlais.
Oui.
La solution, c'est pas de fermer les portes aux parents. Ouais, j'ai une autre solution, c'est de leur mettre un coup de boule pour qu'ils se réveillent.
Ah oui, alors
c'est un peu plus radical.
Non mais Marie, c'est radical, ok. Mais attendez, vous imaginez les gamins qui sont gangrénés quand leur, ce qu'il dit, je sais plus quel intervenant il l'a dit, on impose des séances de physique plutôt que de faire des devoirs aux gamins. Ben ouais, sauf que dans 10 ans, quand ton gamin, malheureusement, il n'aura pas réussi à percer au foot, il n'aura pas réussi, il n'arrivera pas à faire 2+2 et à faire sa table de multiplication et pour trouver un travail, il n'y arrivera pas, eh ben on dira, ah non, mais c'est un jeune qui n'a pas été accompagné. Non, il a été accompagné, sauf que son parent, il a fait faire n'importe quoi.
C'est pas faux.
C'est vrai, Vincent. Bon, il faut quand même qu'on réussisse à trouver autre chose que le coup de boule, même si ça peut être un petit peu efficace.
C'est radical.
Dans quelques situations. Merci en tout cas d'avoir fait le 32-16. Je vous recommande le documentaire qui est actuellement disponible sur Arte, sur Toni Kroos, le joueur de football allemand du Real Madrid, qui a été coaché par son papa et qui, à un moment, le papa s'interroge et dit: j'ai dû tirer le frein à main, parce qu'on se demande parfois si on n'a pas, notre ambition n'est pas plus grande que celle de nos propres enfants.
C'est
et
beau.
Parfois, il faut savoir. Classe. Effectivement, remettre le curseur. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci et bravo Nicolas Paolorsi pour cette remarquable enquête et ce travail très très fourni. Travail à retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr. Et je vous le redis, les Pink Floyd le disaient déjà il y a longtemps: Leave the kids alone.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h34, vous êtes bien sûr RMC, les grandes gueules du sport, de retour en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet, Pascal Duprat, Olivier Giraud. À 11h45, les GG contre-attaque. Il vous reste quelques minutes pour voter sur le compte X de l'émission. Vous savez, c'est l'ancien Twitter, hein, je le répète à chaque fois. Et choisir l'actualité sportive 2023, la plus, selon vous, injustement sous-médiatisée pour l'instant. C'est celui qui y croyait le moins qui est en tête. Je crois que c'est David Douillet qui est en tête. David, rappelle-nous.
Bah, voter.
Oui, t'as fait voter toute la famille, on te connaît.
Laurent Dresse qui a voté.
Rappelle-nous en trois mots, allez, l'intitulé de ton débat.
Bah, c'est une enquête parlementaire qui a été mise en place pendant des mois pour identifier les dysfonctionnements du mouvement SLIF. Voilà.
D'accord, les auditeurs, vous avez encore 10 minutes pour voter si vous voulez inverser la tendance. Et puis, vous avez tout ce qui vous reste de congé et du week-end pour aller réécouter l'émission en podcast. Les thèmes abordés ont été nombreux: Pierre-Ambroise Boss, gâchis ou pas gâchis, Antoine Dupont, agaçant, pas agaçant, Djokovic, petite dominée jusqu'à 40 ans. Et puis, très nombreuses réactions sur le sujet qu'on vient d'aborder, sur ces fameux projets Mbappé qui fleurissent dans la tête des parents au sujet de leurs enfants. Une discussion passionnante que vous pouvez retrouver évidemment en podcast. Restez quand même un petit peu avec nous jusqu'à midi, ou voire jusqu'à 13h si vous aimez les paris sportifs, parce que c'est à suivre. Pour le moment, place au si redouté débat caché des GG.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Cyprien Sarrazin en a fait une démonstration éclatante cette semaine en s'imposant dans la mythique descente de Bormio, 27 ans après Luc Alphand. Une première victoire en descente dans la carrière d'un skieur qui n'était pas spécialiste des épreuves de vitesse. Il ne s'est lancé en descente qu'au début de la saison dernière, époque à laquelle il avouait être un amoureux de vitesse mais pas encore un spécialiste. Sa seule victoire en Coupe du Monde jusque-là avait été remportée en géant parallèle en 2016 à Altabadia. Peut-être va-t-il inspirer Alexis Pinturo, qui a décidé lui aussi de se consacrer aux épreuves de vitesse. Il a terminé 22e à Bormio hier pour sa première descente de la saison. Ailleurs, dans d'autres sports, un Florent Manaudou avait quitté les bassins pour s'offrir une expérience au handball. On se souvient évidemment de Michael Jordan. Il avait mis sa carrière de basketteur entre parenthèses afin de jouer un petit peu au baseball. Des champions qui en sont ressortis plus forts, ou qui ont retrouvé une motivation pour dominer à nouveau dans leur sport de prédilection. Alors cette question, les grandes gueules, c'est pas une question piège, hein, on vous a soigné quand même en ce dernier week-end de l'année. Les sportifs de haut niveau doivent-ils se réinventer s'ils veulent à tout prix s'épanouir? Voilà un sujet large. Vous avez quelques minutes pour me répondre. Qui veut se lancer? Qui était inspiré par notre thème du débat caché?
C'est un oui pour moi.
Marie, c'est oui. Olivier?
Pas forcément.
C'est non pour Olivier. David Douillet?
Oui et non, mais je vais m'en expliquer.
D'accord, c'est la Denis Charvet, on appelle, c'est la spéciale.
C'est l'eau tiède.
Denis qu'on embrasse. Le oui mais non. Pascal Duprat?
Pas forcément, donc non.
Pas forcément, donc non. Je te laisse la main, Pascal. Explique-nous pourquoi, thèse, antithèse, synthèse.
Parce qu'on peut être dans sa discipline tout au long de sa carrière, s'épanouir au gré des résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient tout d'un coup médiocres, sans pour autant avoir envie de changer de discipline. Ça, c'est propre à chaque sportif. à mon avis. C'est le feeling de chacun des sportifs. Par exemple, Pinturault, il a choisi de faire de la descente cette année. Tu m'arrêtes, Marie, si je me gourre. Hein. Mm-hmm. Mais il a pris du poids pour ça. Il se prépare spécifiquement pour ça. Alors qu'il était plus spécialiste des épreuves techniques, il a décidé, et ça bien lui en prend, mais je vois pas par exemple Clément Noël faire de la descente. Il a envie de faire du slalom spécial et j'imagine que jusqu'à la fin de sa carrière, il fera du slalom spécial. Donc on peut s'épanouir en gardant sa discipline, voilà ce que je voulais dire.
Oui. Comme vous avez fait une question assez large et que l'idée c'est doivent-ils se réinventer pour s'épanouir, je pense que c'est pas forcément simplement dans les exemples que tu as cités comme le fait de changer de discipline, mais peut-être ça peut être à un moment donné aller t'entraîner ailleurs avec un autre coach ou dans un autre pays, aller respirer un autre air,
changer de club. Effectivement, les skieurs ils sont pas passés au patin à roulettes.
Non, ils sont restés dans leur discipline. Mais tu vois, donc là au déboté, j'ai pas vraiment d'exemple parce que je peux pas aller les chercher, mais j'imagine qu'il y en a tout un tas d'athlètes qui étaient peut-être sur une mauvaise dynamique dans un club et qui, en changeant de club, se sont retrouvés. Des fois, c'est un changement de technique, c'est un changement d'angle sous lequel tu prends ton sport. Je me suis mis à la nutrition, je calcule tout ce que je bouffe et du coup, ça a un impact de fou sur mon bide et donc sur ma performance. Et donc oui, je pense que c'est une des clés du sport de haut niveau que de se réinventer, que d'être curieux, de faire des choix différents.
Est-ce que c'est vraiment la terminologie se réinventer par rapport à ce que tu dis? Ce que tu dis, opter pour optimiser la performance par des choix forts,
par des changements,
changer d'entraîneur.
Oui, ne pas avoir peur du changement. Et voilà. C'est là-dedans que j'ai pris le réinventer. C'est pas non plus inventer le fil à couper le beurre, hein, mais c'est ne pas avoir peur du changement. En ce sens-là, je l'ai prise dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je trouve que c'est un réel intérêt de se réinventer.
Olivier.
Le moment où tu... t'es toujours en concurrence dans le sport et le moment où tu vas te réinventer, quand tu veux te réinventer, c'est que tu gagnes plus déjà. C'est que t'es pas dans un super mood ou sinon que t'es lassé. T'es lassé à un moment de ce que tu fais tous les jours. Donc en général, t'as deux choix, soit te réinventer, soit arrêter. Et je prends l'exemple que tu as pris, Florent Manaudou. Je pense que d'être dans la piscine, il en avait marre à ce moment-là. Après la médaille d'argent, c'était à Rio. La médaille d'argent à Rio, sa déception a fait que il en avait marre de compter les carreaux. Et donc il est retourné dans quelque chose qui lui plaisait, mais c'était limite, on se demandait s'il allait reprendre. Et il avait déjà joué au handball et il a vu que la montagne était un petit peu grosse quand même, parce que quand on l'a vu arriver, son rêve de jouer à haut niveau, il y a des mecs qui s'entraînent tous les jours, il y a une densité musculaire, c'est pas de la natation. Mais par contre, il y est allé, il était accepté en plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rejeté par la communauté du handball. Il y a eu quelques mots de certains entraîneurs, mais Jérôme Fernandez, qui était capitaine de l'équipe de France et qui était entraîneur de Aix, l'a accepté à l'intérieur. Je pense que ça l'a reconditionné à retourner, à re-aimer ce qu'il faisait, à découvrir qu'en fait, que ce qu'il faisait, c'était pas si chiant que ça, et que cette coupure, elle lui a permis d'être entouré déjà, parce que en sport collectif, et de revenir avec de l'envie. C'est pas le truc que tu vas gagner, mais reprendre de l'envie. Donc, moi, je suis toujours perplexe sur ceux qui modifient. Ma question, c'est pourquoi tu modifies? Est-ce que ça te plaît encore?
Ah ouais, tu dis l'inverse de moi.
Ah ouais, est-ce que ça te plaît encore et que quand tu changes, c'est que ce que tu fais, c'est pas bien ou que ça te plaît
vraiment? Mais c'est clair, regarde Bardet qui était un peu enfermé dans cette équipe d'AG2R et tout, et qui a décidé enfin d'en sortir, et il s'est révélé, il était meilleur, l'été dernier c'était bien, enfin, et ça se voit dans ses prises de parole, ça se voit comme quand il pédale, ça se voit sur ses résultats. Je suis vraiment partisane du changement.
David n'est pas d'accord.
C'est radical. Hein. Ouais, vas-y David.
Non, je suis pas d'accord. David,
on t'écoute.
Je vais justifier mon oui mais non. Non, t'es pas obligé de changer de discipline. Et oui, t'es obligé de te réinventer en permanence, tout le temps, à l'intérieur de ta discipline. Parce que moi, je trouve qu'il y a pas une seule compète qui se ressemble. D'ailleurs, comme toi-même, tu changes au fur et à mesure du temps. T'as des blessures, tu évolues, ta technique évolue, ton mental évolue. Enfin, il y a mille choses, il y a mille paramètres qui changent à chaque fois. Donc, le lendemain d'une compète perdue ou gagnée, tu Enfin, pour moi, tu repars de zéro. Donc, tu remets en question complètement le truc. Et oui, t'es obligé de te réinventer à chaque fois. Si tu te réinventes pas.
Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, David.
T'as pas du tout les bons paramètres pour regagner ou pour essayer de gagner à nouveau.
Non, non,
c'est
mais,
mort.
Mais je suis d'accord avec toi, David, là. C'est-à-dire que si tu me parles de se réinventer dans son sport, parce que quand tu vieillis, on en parlait tout à l'heure sur ton titre de 96 et suite 2000, c'est-à-dire que tu t'adaptes et tu trouves des solutions avec ce que t'es dans le moment et toujours essayer de t'améliorer. Mais là, on parle de gens qui partent d'un sport, et même si c'est toujours de la glisse, et qui vont tenter une expérience qui est différente de ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils font un autre sport.
J'ai entendu.
Ouais, je le voyais comme ça aussi.
J'ai entendu, mais je trouve que t'ailles dans une autre discipline ou que tu restes dans ton sport, le haut niveau, ce n'est que ça. C'est se réinventer en permanence.
Alors, c'est tu aller veux parler de remise en question, David.
Mais non, c'est pas une. Oui, la remise en question, mais c'est trop simple la remise en question. Je trouve que se réinventer, c'est plus profond. C'est-à-dire que tu vas repartir vraiment de zéro au plus profond de toi-même, avec une humilité complètement folle et totale, comme si t'étais une ceinture blanche à chaque fois. Et ça te donne le piment, et ça te donne l'écoute, et ça te donne l'envie, et ça te donne la motivation pour aller rechercher un titre mondial, aller rechercher un titre européen, etc.
On va en parler, David. T'as le contre-exemple, hein. T'as Djokovic, ça fait 15 ans qu'il fait la même chose, de manière très précise, et le gars, il se lasse pas, hein.
Ouais, après, là, tu prends un exemple.
Oui, mais là encore, se réinventer, ça peut être changer ton entourage, changer tes méthodes d'entraînement, changer ton planning, les tournois que tu souhaites disputer.
Changer de méthode,
voilà. Voilà, de méthode.
C'est au gré de l'évolution de ta carrière, bien sûr, que tu affines ta préparation, ton approche de la compétition, ça c'est presque naturel. Oui. J'ai presque envie de vous dire que les sportifs sont les êtres humains qui se remettent le plus souvent en question. Exactement. Parce que d'une compétition à une autre, il faut que tu te réinventes, comme exactement, tu l'as dit, David, voilà, ou que tu te remettes à plat, quoi. Mais à bon, niveau, ouais, tu repars de zéro.
Tu vois, Pascal, sur le côté monosport ou plurisport, même là-dedans, je serais vraiment partisane de dire que quand tu fais plusieurs sports en même temps, c'est vraiment cool et ça te permet de développer des aptitudes incroyables. J'ai un petit exemple là qui me vient, c'est Léo Anguenaud qui est en train d'exploser en ski alpin, justement, il commence à rentrer dans les points en Coupe du Monde et tout. Ouais. Et il est un cador du ski nautique. Et donc, tous les étés, quand les autres sont sur les glaciers et tout, il n'a pas forcément le même nombre d'entraînements sur les skis, mais je crois que ça le sert. Parce que
d'accord avec
même
toi,
pour ta tronche, ça fait du bien, parce que pour tes aptitudes, tu développes d'autres choses, tu vois. Donc, on est un peu monosport quand même chez nous, par tradition, alors qu'il y en a vraiment à gagner à les gamins, à leur faire beaucoup plus
absolument
de sports différents, je crois. Hein.
Je suis d'accord.
Et ben voilà, c'était le mot de la fin, c'est passionnant de cordialement.
Marie nous a mis tous d'accord.
Un mot de la fin qui fait consensus, c'est assez rare pour être souligné, mais c'est toujours aussi passionnant de vous entendre, vous les sportifs de haut niveau, et sur ces questions-là, évidemment, chacun a son avis et toutes les méthodes ne conviennent pas forcément à tous, mais la preuve a déjà été faite que ça peut marcher. La dernière ligne droite des grandes gueules du sport dans un instant, la fin du suspense, et vous pouvez aller voter, vous avez appelé les cousins, les oncles, les tantes,
les appelle tout de suite.
Ils sont nombreux.
1 minute 43 et pas une seconde de plus avant le retour, les grandes gueules contre-attaquent dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h48, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport qui continue de débattre pendant la pub. Les débats sont animés, sont passionnants à l'antenne, mais ça c'est le privilège, notre privilège à nous. Ils se poursuivent parfois, ils sont aussi passionnants hors antenne de temps en temps. En direct pour un petit quart d'heure encore jusqu'à midi en compagnie de David Douillet, Pascal Duprat, Olivier Giraud, Marie Martineau. Dernière ligne droite, je le disais, avant de retrouver la bande des parieurs autour de Christophe Payet, ce sera jusqu'à 13h. Mais avant ça, il reste un peu de force au GG. L'une d'elles a gagné le droit de contre-attaquer.
RMC, les GG contre-attaquent.
Alors je disais, il reste un petit peu de force, mais pas forcément du côté obscur, hein. On va voir, on va aller voir tout de suite, parce qu'on a laissé aux auditeurs tout le temps dont ils avaient besoin, et même à nos copains, pour qu'ils aillent voter les résultats de la consultation qui l'a emporté? Est-ce que ça a bougé durant les dernières secondes? Je demande à mon producteur de vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. C'est donc une victoire de David Douillet. Oh, 33%.
Tout bon en Bresse, tout
bon en Bresse. On est passé pas loin du sarrasin, de la crêpe sarrasin avec Pascal.
C'était
Dupont.
Bien aussi.
Ben, c'est parce qu'il y avait deux sujets ski, je pense. Ils se sont phagocytés les deux.
C'est grave phagocyté. Voilà. À tous les deux, on panier, fait 50%.
Panier, nous sommes solidaires en tant que Savoyard. Mm.
Et Berthaud, 11%, mon cher Olivier Chiron.
Eh bien, il y a au moins 11%. Qui savent qui.
Bon, voilà, vous avez fait plaisir, Olivier Giraud. David Douillet, on parle d'audience parlementaire. Je te laisse la main. C'est toi qui prends ma place. C'est toi,
le
maître de cérémonie. Lance le débat que tu souhaitais avoir à l'antenne.
Tout simplement, il y a eu des mois et des mois, il y a eu 90 auditions du mouvement sportif, de personnalités du mouvement sportif, qui vont des présidents de fédé, en passant par des entraîneurs, des sélectionneurs, des athlètes, des anciens athlètes, des athlètes.
J'ai été auditionné aussi.
Des anciens ministres, et oui, voilà. Et tout ça, pourquoi et comment et qu'est-ce qui va en ressortir? C'est la grande question que je me pose. Donc j'ai plusieurs idées, je lance plusieurs pistes que je laisse pour le week-end à nos auditeurs. Je me dis que, bon, le monde parlementaire, pourquoi le sport d'ailleurs, pourquoi à ce moment-là? Alors, il y a eu un espèce de questionnement fourre-tout où on est passé évidemment de sujets extrêmement graves comme les agressions sexuelles dans le monde du sport, et ça c'est extrêmement grave, à la gestion des fédérations, le comportement de certains dirigeants, alors le comportement administratif je parle, hein, pas évidemment
les rémunérations, il y avait tous les sujets,
les rémunérations d'anciens ministres actuels, etc. Enfin, il y a eu une espèce de, j'ai eu l'impression que le sentiment d'avoir une chasse aux sorcières, voilà. On a voulu faire le grand nettoyage du monde du sport. Mais, excusez-moi, quel milieu n'a-t-il pas besoin de grand nettoyage aujourd'hui? On le voit dans le monde de la culture, on le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit dans le monde politique. Politique, je vais le dire deux fois de suite. Pourquoi il n'y a pas une autosaisie du Parlement sur le monde politique? Voilà. Et pourquoi on veut casser la gueule au sport à quelques encablures des Jeux Olympiques? Ça, pour moi, c'est un peu gros comme le nez au milieu de la figure. Voilà. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de mouvement, une petite musique orchestrée par qui, par quoi. Faut voir les intérêts, à qui profite le crime, pour décrédibiliser le sport. On décrédibilise les jeux, on l'attaque sur tout un tas de sujets divers et variés. On décrédibilise le mouvement sportif, on l'attaque sur beaucoup de sujets divers et variés. J'ai l'impression que, oh, on aime le sport ou pas dans notre pays? On a compris que c'était un domaine dans lequel on éduquait aussi nos enfants. On a compris que c'était un domaine dans lequel on pouvait aussi avoir un avenir social. On a compris que c'était un domaine dans lequel on éduquait sociétalement toutes des générations et des générations entières. On a compris que c'était un pilier fondamental de notre société. J'espère que le rapport qui sera rendu public le 16 janvier va être axé que dans ce sens-là. Je le souhaite de tout mon cœur. Si c'est pas le cas, on en reparlera.
Bon, ben voilà, c'était l'édito d'un Dédé fâché, hein.
C'était clair et
je m'interroge.
Voilà, non mais on l'a bien compris. Les grandes gueules, vous avez le choix. Soit vous réagissez à ce que David vient de dire, si vous le souhaitez. Soit vous avez 30 secondes. On est comme ça, hein. C'est la fin de l'année pour justement nous faire un minuscule édito sur le débat que vous n'avez pas eu le droit de placer à l'antenne.
Ah non, je vais respecter. Allez, je vais respecter le choix qui a été fait par nos auditeurs et c'est important d'apporter énormément de précision, mais on pourra pas le faire en 30 secondes. Je pense que c'est parti de quelque chose de tout simple, c'est que le sport aujourd'hui fait société parce que il est à la lumière. Il est souvent pris comme exemple et en contre-exemple aussi par ceux qui ne l'aiment pas spécialement. Et que la seule chose qu'il faut dire, c'est que le sport, en fait, il fait société parce qu'il est tout simplement le reflet de notre société. Et donc, on se sert de lui comme étalon. Et que le problème que nous avons, c'est que la France est un pays sportif. Mais qu'en termes de politique sportive, des fois on peut se poser la question. Et donc quand les fédérations qui sont très complexes et les parlementaires s'en sont rendus compte. Je pense qu'ils ont été aussi très surpris de la complexité des fédérations et de la différence des fédérations, des sujets des fédérations, des cibles des fédérations. Et donc, savoir ce qui va en sortir, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et que David a pointé quelque chose de vraiment important, parce qu'on est, allé regarder tout ce qui ne fonctionnait pas dans les fédérations.
Oui.
Mais malheureusement, comme souvent dans ces débats-là et dans ces commissions-là, on ne regarde pas tout ce qu'il y a de bon dans le sport. Et que si on devait faire le ratio, heureusement que le sport encore existe dans ce pays, qu'il est géré, comme tu le disais tout à l'heure, par des bénévoles. Évidemment qu'il fait société, il fait partie de la société et doit se prendre en main comme toute la société, mais ce n'est pas un fait qui ne vient que du sport. J'espère que tous les parlementaires l'auront compris, et cette différence qu'il y a entre le traitement, la vision qu'on peut juger le sport et les sportifs, voire les parents des sportifs, et la manière dont on se juge soi-même, celle-là, elle est peut-être à revoir.
Et nul doute que le sport sera au centre des préoccupations de certains responsables politiques cette année, si vous voyez.
Ah ben, vu que c'est dans la lumière, on va voir tout le monde. Hein.
Il est pas interdit.
Ah, ça serait bien qu'on voie un peu plus les sportifs que ceux qui commentent le sport.
Effectivement, mais pas sûr que tu ne vois
pas
les politiques.
S'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais.
Non plus. Et pas interdit de penser qu'on en parle dans les grandes gueules dominicales. Demain, il me reste à vous remercier. Vous avez été brillant sur des sujets qui, je crois, ont plu au public. Vous avez quelque chose à ajouter? Il te reste 25 secondes, Marie.
Ah bah non, mais en 25 secondes, ça va être chaud. Non, ça ira. Trop peu pour moi.
Donc vive le sport, Simon.
Vive le sport. Merci mon cher Pascal, évidemment, vive le sport.
C'est la bonne réponse.
Vive le sport. L'année. Évidemment.
Et on repassera le son quand Victoire Berthaud sera championne olympique cet été.
Exactement, vous gardez évidemment vos munitions et on fera évidemment les comptes. Merci beaucoup Marie Martineau, merci beaucoup Olivier Giraud. Merci beaucoup
Simon.
David Douillet.
Merci Simon, merci tout le monde.
Et bonne fin d'année à vous, auprès de vos proches et de ceux que vous aimez. C'est important. Dans un instant, la bande des paris, les experts des paris sportifs, midi 13h, votre rendez-vous. Et puis le retour des grandes gueules du sport pour la dernière de l'année, dimanche 31 décembre, demain 9h30, midi. Vous restez bien sur RMC, le sport en live, le débat, l'info ne s'arrête jamais.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.